7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Chantal Laureau.
Bonjour, bienvenue dans 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, nous allons vous faire voyager. Connaissez-vous le point commun entre les Mosso en Chine, les Apothèques au Mexique, les Touaregs au Sahara, les Minangkabau en Indonésie ou encore les Bijagos en Guinée-Bissau? Eh bien, ce sont des sociétés où les femmes jouent un rôle central sans pour autant dominer. Chacune de ces communautés a son propre fonctionnement ou ses propres rituels. Les hommes n'y sont pas forcément absents, mais ce sont les femmes qui décident, qui organisent, qui gèrent et qui transmettent leurs noms et leurs biens à leur lignée. Alors comment fonctionnent ces sociétés matrilinéaires? Combien sont-elles dans le monde? Peuvent-elles représenter une source d'inspiration pour nos sociétés toujours en quête de parité? Sont-elles plus égalitaires, plus démocratiques, moins violentes que les sociétés patriarcales? On en parle avec nos invités et si vous avez des questions ou envie de témoigner, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp au 337 64 45 51 41. Nadia Ferrucchi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes reporter photographe et vous publiez chez Albin Michel Les Matriarches, une promenade colorée, pour reprendre vos propres mots, fruit de 10 ans de travail aux quatre coins de la planète, au cœur de sociétés matrilinéaires. En ligne avec nous, Sophie Blanchy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au CNRS, ethnologue, spécialisée dans l'étude anthropologique des populations de l'archipel des Comores et de Madagascar. En fin d'émission, nous écouterons un reportage de Charlie Dupiot au sein de la cantine des femmes battantes, un traiteur social qui vise l'émancipation des femmes précaires grâce à la cuisine. Notre reporter nous emmènera dans la cuisine du théâtre Nout sur l'île Saint-Denis, près de Paris, où l'on s'active au fourneau pour préparer un repas pour 300 personnes.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne. Nadia Ferrucchi, comment vous est venue l'idée de partir photographier à travers le monde ces sociétés, ces communautés où les femmes occupent une place centrale et détiennent des pouvoirs clés?
C'est démarré de façon un peu innocente, si on peut dire comme ça. Je suis tombée sur un documentaire sur le village, un village de femmes au Kenya, mais j'en parlerai un petit peu plus tard dans l'émission. Et ça m'a interpellée, cette place qu'avait la femme dans ce village. Donc j'ai commencé à faire des recherches. Enfin, je suis partie au Kenya surtout. J'ai fait mon reportage, je suis revenue, je l'ai vendu à Géo. Et par la suite, j'ai commencé un petit peu à chercher dans ce qui se passait un petit peu dans le monde autour de la femme.
Et donc vous avez découvert...
J'ai découvert des communautés diverses, donc les Mosso en Chine, les Minangkabau en Indonésie, les Apothèques en Mexique, etc.
Donc vous en avez choisi 10. Est-ce que vous en aviez plus? Est-ce que vous aviez fait davantage de reportages et vous avez dû faire une sélection?
Alors je n'ai pas trouvé tout de suite dès le départ les 10, c'est un petit peu au fur et à mesure des années. Parce qu'en fait, je ne partais pas forcément sur l'idée de faire tout un travail là-dessus, sur la longueur, toute une thématique. C'est venu un petit peu au fur et à mesure. Donc quand on me dit aujourd'hui, oui, ton sujet, il est dans l'air du temps. Oui, certainement, il est dans l'air du temps, mais je ne pensais pas comme ça à l'époque. Moi, je n'étais pas du tout là-dedans. J'avançais, comme je dis, de façon innocente.
Et vous n'aviez pas une fibre féministe?
Si, je suis féministe, si, bien sûr. Je suis féministe pas parce que je suis une femme, hein, on est d'accord là-dessus, hein, c'est pas quelque chose qu'on est parce qu'on est femme, on le choisit par son parcours. J'ai une sœur qui a été, enfin qui est une féministe militante pour le coup, donc ça a été un peu mon modèle, c'est ma grande sœur que j'ai toujours admirée. Donc je pense qu'elle m'a indirectement nourri un petit peu des choses tout au long de mon enfance, oui.
Alors vous avez choisi de titrer votre livre « Les matriarches » au risque d'agacer un certain nombre d'anthropologues. On fera réagir Sophie Blanchy dans un instant. Pourquoi ce titre « Les matriarches »
J'espère ne pas agacer les anthropologues parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie. Le titre a été très difficile à trouver parce que le vrai terme, disons que matrilinéaire est un terme qui est quand même important à retenir parce que ça veut dire que la filiation est féminine, donc tout est transmis de la mère aux enfants. Mais choisir ce titre, ça aurait été un peu, c'est pas un titre qui est très attirant, on va dire. Et puis c'est pas tout à fait le cas non plus parce que chaque communauté, même s'il y a un fil conducteur, chacune a quand même sa particularité. Donc on n'est pas forcément que dans la matrilinéarité. Moi, le titre que j'avais trouvé à la base, c'était Au nom de la mer. C'est le titre que je voulais mettre pour cet ouvrage. Et finalement, suite à des discussions avec mon éditeur, etc., il s'avère que, et ils ont peut-être pas tort, que c'est un titre qui est pas suffisamment
explicite.
Exactement, pour le grand public. Et le matriarche, ben, en fait, c'est Laura Adler qui, dans sa préface, a mis ça comme titre. Et moi, j'ai cité. Je trouvais que ça correspondait bien. Je suis allée rechercher quand même les définitions de c'est ce que j'ai trouvé hein, dans mes modestes recherches. Le sens sociologique, la femme est placée à la tête d'une famille ou et d'une activité. Dans le sens historique biblique, c'est l'épouse du patriarche. Bon, là, c'est déjà moins. Et dans le sens zoologique, femelle éléphant qui dirige son propre groupe de congénères. Donc, ça, voilà, je trouve que ce titre quand même colle bien parce que voilà, ça veut quand même dire que la femme a une place importante et pas dominante, ce oui. qui est aussi important à dire.
Sophie Blanchy, pourquoi préférez-vous, vous en tant que qu'ethnologue, parler de société matrilinéaire plutôt que de société matriarcale ?
Alors, parce que ce mot de matriarcat a une histoire et qu'en fait, il désigne dans l'usage qu'en font les gens beaucoup de choses différentes. Entre parenthèses, le titre « Au nom de la mer » aurait été absolument formidable. Je regrette beaucoup qu'il n'ait pas été retenu. Alors, le mot « matriarcat » a été fabriqué et très utilisé au XIXe siècle, qu'il a été fabriqué à partir de « patriarcat », comme si c'était l'inverse symétrique. « Patriarcat », c'est le pouvoir des pères sur l'ensemble de la société et notamment sur tous les membres de leur famille. Donc, « matriarcat » reflète cette hypothèse qu'il y aurait eu à l'origine des sociétés humaines un matriarcat dans une vision évolutionniste de ces sociétés. Or, tout cela n'a pas été prouvé, mais il y a eu des auteurs, les premiers anthropologues, si l'on peut dire, au XIXe siècle, qui ont posé cette hypothèse. Alors, on voit maintenant, et par exemple, en regardant sur Internet, on voit un usage très fréquent de ce mot de matriarcat, de matriarche. On le voit en fait utilisé pour désigner ces sociétés matrilinéaires et matrilocales. Alors, je suis d'accord que ce n'est pas très attractif de mettre ces mots-là dans un titre. Mais mettre matriarche ou matriarcat dans un titre pour être attractif, c'est quand même un peu trompeur. Et alors, encore pire, si je peux dire, quand il s'agit de sociétés ou de communautés qui ne sont que matricentrées, comme c'est le cas de ce village sans gourou, ce village de femmes sans gourou dont parle Nadia Ferrouki.
Mais elle précise
en fait,
bien, mais Nadia précise bien.
Réfugiées.
Oui, on va y revenir. C'est un cas voilà. à part hein, parmi ces
sociétés. C'est un cas à part, mais dans un contexte de violence masculine sur les femmes. Alors,
absolument.
On est complètement à l'inverse, voilà.
Absolument. Sophie Blanchy, combien existe-t-il de sociétés matrilinéaires dans le monde ? Est-ce qu'on a une
oui,
idée ?
Oui, on a une idée qui n'est pas un compte démographique, mais à partir d'un échantillon de sociétés qui avait été réuni dans les années 60, à partir de 565 sociétés, il a été calculé qu'il y en avait 84 à 15% qui étaient matrilinéaires. En général, ce sont de toutes petites sociétés, donc ça ne reflète pas 15% de la population mondiale. Et 15%, et plus précisément, il y en avait qui étaient aussi matrilocales, c'est-à-dire que la résidence est matrilocale, du côté de la mère de famille et de sa parenté.
Attendez, matrilocale, est-ce que vous pouvez expliciter un peu plus ?
Oui, la mère et ses enfants, et éventuellement les parents, le couple conjugal et les enfants habitent dans une maison qui est la maison de la mère et qui est entourée de ses parents maternels.
Donc le père n'habite pas avec son épouse et ses enfants, c'est ça ?
Si, il habite avec son épouse et ses enfants, mais il quitte sa famille pour venir habiter chez son épouse.
D'accord.
Ce sont les hommes qui vont habiter chez les femmes.
D'accord.
Voilà. Et quand ils se séparent, ils s'en vont, ils quittent cette maison.
À quand remonte la société matrilinéaire la plus ancienne ?
Ben ça, personne ne peut le dire. C'est impossible de documenter des choses pareilles. On peut remonter avec de la documentation historique. Bon, l'archéologie dit très peu de choses sur ce genre d'organisation sociale. Donc, il faut avoir des descriptions. Et ces descriptions, on a commencé à les avoir pour la plupart au XIXe siècle, même si on peut avoir, à partir des grandes explorations dès le XVe siècle, des notations sur des organisations de type matrilinéaire, mais très, très incertaines.
Nadia Ferrouki, vous avez choisi donc 10 exemples de sociétés où les femmes occupent un rôle central sur différents continents. Est-ce que vous avez observé des constantes au sein de ces 10 sociétés ? Ou est-ce que chacune est vraiment très différente ?
Elles sont pour la plupart quand même différentes. Là où j'ai trouvé des similitudes, c'est peut-être entre, on va dire, les Minang, oui, chez les Mosso et les Minangapao. Je pense, oui, parce qu'en fait, là, il y a matrilinéaire, donc c'est la fille qui est, les filles qui héritent, et il y a matrilocale, comme expliquait Sophie Blanchy, où donc l'homme s'installe dans le foyer du clan de la femme, de la famille de la femme.
Quand on parle aujourd'hui, en France, par exemple, de sous-représentation des femmes, d'inégalité salariale, de bataille pour défendre les droits des femmes, on se demande parfois si, avec des femmes aux commandes, la société serait plus juste, les choses fonctionneraient moins, le monde serait moins violent. Est-ce que vos reportages apportent une réponse à ces questions ?
Oula, je suis pas certaine. Je pense pas forcément que ça apporte une réponse, mais je pense que c'est toujours intéressant de voir que ailleurs il y a d'autres fonctionnements et que on peut peut-être apprendre de cette autre façon de faire et que ça peut aussi nous apporter des choses et que nous on n'est pas là à donner des leçons parce qu'en Occident on aime bien aussi le côté un peu patriarche justement d'aller donner des leçons à d'autres cultures comme quoi nous on fait mieux. Et ben non, je pense qu'il y a une telle diversité mondiale qui est intéressante. Et voilà, donc je pense que c'est pas une réponse en soi, mais ça mérite de regarder ça de plus près.
Mais qu'est-ce que le fait que les femmes soient le pilier de la communauté change très concrètement au fonctionnement de la communauté ?
C'est-à-dire que...
Est-ce que la communauté est organisée différemment parce que c'est une femme qui la dirige ou qui prend les décisions ?
Une fois de plus, ça dépend des cas.
Est-ce que vous avez des exemples qui viennent en tête ?
Par exemple, au Mexique, chez les apothèques, c'est la femme qui gère la bourse. L'homme produit la matière brute, la pêche, l'agriculture. Et ensuite, c'est la femme qui le fructifie,
prépare,
qui le transforme. Parce que les marchés sont essentiellement, enfin, sont 100% féminins. C'est elle qui vend les biens. Donc, voilà. Et ensuite, c'est aussi elle qui gère l'argent au sein de la famille et qui donne de l'argent de poche, par exemple, à son mari. Donc voilà, ça c'est un exemple économique, on va dire, où elle a quand même une place. Alors politiquement, elle est moins présente, par exemple, mais elle est économiquement. Ensuite, au Kenya, pour reprendre cet exemple, qui est différent, soit, mais là c'est différent parce que là il n'y a que des femmes et des enfants. Là il n'y a pas d'hommes, donc la question se pose différemment. Je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à votre question.
Bah, vous avez donné l'exemple, du Mexique.
Oui.
Mais les femmes, quand elles donnent de l'argent de poche, en quelque sorte, à leur mari, est-ce que les maris le prennent bien, considèrent que c'est normal ?
Ça a toujours été comme ça. Donc, alors ça aussi, je tiens à le dire, parce que contrairement à Sophie Blanchy et tous les scientifiques, moi, je suis reporter. J'essaye quand même d'être au plus juste, bien évidemment. Je ne suis pas là pour raconter des histoires fausses. J'essaie d'être au plus juste et...
Mais vous précisez que vous n'êtes ni ethnologue,
je suis
ni
quelqu'un d'honnête et de droit. J'ai cette chance aussi, lorsque j'arrive sur le terrain, d'être très vite admis par les gens. Parce que je suis là sans jugement, parce que je suis sympathique, parce qu'on m'ouvre les portes, parce que j'ai aussi la chance d'avoir toujours quelqu'un, un fixeur qui m'introduit dans l'intimité de ces gens. Je ne reste pas aussi longtemps que les scientifiques, c'est une réelle frustration. C'est pour ça qu'il y a certaines nuances que je ne peux pas tout saisir. Je pense que même quelqu'un qui travaille pendant des années sur une communauté, il y a des choses qui échapperont aussi par la culture, par la langue, par des codes, moi encore plus. Donc je reste en moyenne deux, trois semaines sur le terrain et donc j'essaye de prendre un maximum et de raconter les histoires de ces femmes, de ces enfants, de ces hommes et comment ils vivent leur quotidien.
Et vous racontez que donc c'est votre fixeur qui vous introduit dans ces sociétés, mais est-ce que vous prenez le temps, avant même de sortir votre appareil photo, de discuter avec les gens pour établir un lien de confiance?
Oui, oui.
Est-ce que vous prenez ce temps-là?
Oui, je trouve que ce soit pour ce sujet ou n'importe quel autre sujet, hein, on ne débarque pas comme ça. L'appareil, ça reste quand même un objet qui, malheureusement... agresse. Enfin, moi, je comprends pas trop pourquoi, mais des gens se sentent agressés assez rapidement et de plus en plus. D'ailleurs, ça devient de plus en plus difficile de travailler à cause des réseaux sociaux, notamment, etc. Et les photos qui circulent un peu partout. Donc, oui, il y a toujours un temps pour apprendre à se connaître. Et puis après, une fois qu'on sort l'appareil, il faut aussi se faire oublier parce qu'il y a, bien sûr, il y a toujours des mises en scène dans les photos faites. Par moments, il y a des mises en scène. On reconstitue une scène qui existe réellement, mais voilà, qu'on a besoin là pour l'image. Mais sinon, il faut que les choses soient naturelles aussi. Il faut qu'à un moment donné, on sache plus que je suis là.
Est-ce que vous avez construit vos reportages photos dans votre tête avant d'être sur le terrain? Est-ce que vous aviez un fil conducteur?
Oui. Alors, tout au début, non. Parce que, comme je disais, j'ai commencé ça un petit peu comme ça. Et au fur et à mesure de mes recherches, de mes rencontres, de mes lectures, etc., et que j'avançais sur le terrain par rapport aux diverses communautés que j'ai rencontrées, oui, j'ai un fil conducteur. Le fil conducteur, c'était, en gros, pour schématiser, il y a l'aspect religieux, spirituel, il y a le quotidien, il y a la transmission. Il y a un espèce de schéma que je suivais plus ou moins dans chaque communauté que je recherchais. Les cérémonies, que ce soit la naissance, le mariage, un rituel de transmission de quelque chose de mère en fille, par exemple. Donc oui, il y a un fil conducteur, oui. Très important.
Sophie Blanchy, est-ce que dans ces sociétés matrilinéaires, les femmes considèrent qu'elles exercent le pouvoir en opposition à l'homme, ou est-ce qu'elles ne se posent pas du tout ce genre de questions?
Ça dépend, parce que les sociétés matrilinéaires sont des petites sociétés qui sont prises dans une société globale qui est en général beaucoup plus, alors patriarcale, on peut parler de pouvoir des hommes. Comme on l'a vu, c'est une question de transmission des biens dans la famille. Donc il s'agit d'une dimension juridique qui porte surtout sur les groupes familiaux. Il y a aussi, ça induit une orientation cognitive vers les femmes, une façon de considérer les rôles des hommes et des femmes différents. Mais ces femmes, elles ont des fils, elles ont des frères, elles ont des oncles qui font partie de leur groupe, qui sont proches d'elles et qui travaillent en coopération avec elles. Donc, ce sont ces hommes matrilinéaires sur lesquels il faut s'interroger. Et ça a été assez long dans l'anthropologie de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire être un homme dans les sociétés matrilinéaires. Et il faut aborder un peu la question sous cet angle. Et ce sont les travaux féministes qui, depuis les années 70, ont aidé à décentrer le regard, parce qu'en fait, nous sommes issus, en tant qu'occidentaux, d'une société fortement patrilinéaire, même s'il y a eu des changements dans le droit de la famille très récemment. On a vraiment cette idéologie qui nous façonne, et il est très difficile d'en sortir pour penser les sociétés matrilinéaires. Donc les hommes sont définis par les femmes, ils sont les fils d'eux, ils sont les frères d'eux, et dans ces sociétés, ils n'ont jamais de contrôle total sur quiconque, même s'ils jouent des rôles importants. En tant qu'oncle et en tant que père ayant fait des enfants dans une autre maison, ils ont leur mot à dire dans l'éducation des enfants, dans la production économique, etc. Et en fait, ils sont plutôt mobiles entre des unités centrées sur les femmes, et ils ont un rôle de médiation très important.
On va faire une petite pause musicale avec un extrait du nouvel album d'Adèle, Easy On Me, et on se retrouve juste après pour continuer à parler des sociétés matrilinéaires.
There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I'm drowning in this silence, baby.
Easy on me, Adèle sur RFI dans 7 milliards de voisins. Comment fonctionnent les sociétés matrilinéaires, ces sociétés où les femmes occupent une place centrale? On continue d'en parler avec l'ethnologue Sophie Blanchier et la reporter photographe Nadia Ferrouki qui publie Les Matriarches chez Albin Michel. Un album qui nous fait voyager du Kenya à l'Estonie, de l'Indonésie au Mexique, en passant par l'île d'Ouessant en Bretagne. Elles font la couverture de votre livre, Nadia Ferrouki, 12 femmes kenyanes, Samburu et Turkana, en tenue traditionnelle aux couleurs éclatantes, orange, rouge, jaune, bleu. Cette photo magnifique, vous l'avez prise lors d'une cérémonie très spéciale.
Bah, déjà, elle est en couverture parce que j'ai un vrai faible pour l'Afrique, déjà, pour commencer.
Faire plaisir à tous nos auditeurs africains.
Bah, tant mieux. Et d'ailleurs, l'Afrique me manque beaucoup, beaucoup. Là, ça fait un moment que je n'ai pas pris un avion avec... Voilà, pour les raisons de Covid et tout ça. Et aussi parce que j'ai un vrai petit faible pour cette communauté. C'est le premier aussi, c'est la première communauté que j'ai couverte. Et au fait, j'ai commencé au départ, quand je suis arrivée là-bas, donc à mes propres frais, hein, j'ai voulu rencontrer le village Umoja, qui est le premier village de femmes.
Qui a été fondé en 1990.
Voilà, je ne sais plus la date. C'est 90,
je crois.
Je crois que c'est ça. Et donc j'ai voulu rencontrer donc la responsable, la chef du village. Ça s'est pas fait, voilà, pour diverses raisons logistiques. Donc je suis restée 2-3 jours à tourner en rond sans rien. Et au final, mon fixeur m'a présenté donc ce village Toumaï.
Oui, il faut expliquer, hein, c'est la particularité de ces villages. Ils ont été fondés par des femmes, oui. Des femmes qui ont un passé très lourd.
Voilà, elles ont toutes subi des violences conjugales diverses, répudiation, excision, etc.
Mariage forcé.
Mariage forcé. Et donc, elles ont, Umoja est donc le premier village qui a été créé. Et depuis, il y en a plusieurs maintenant. Et donc, elles sont totalement autonomes et elles s'autogèrent. Et donc, quand je suis arrivée au village, elles m'ont accueillie. Alors, s'il y a une double cérémonie, si on peut dire comme ça, sur cette photo-là, c'est pour ça qu'elle est très forte pour moi, c'est qu'il y a déjà d'une part des chants qu'elles font régulièrement au bord de la rivière, où elles demandent donc aux esprits de la pluie, de la protection, du bétail, etc., etc. Donc, c'était ces chants-là et c'était aussi pour m'accueillir. Donc, voilà, j'étais très honorée.
Parce que ces femmes sont chrétiennes, mais elles ont gardé des croyances animistes.
Oui, exactement.
D'où ce syncrétisme qui s'exprime lors de cérémonies comme celle-là, voilà. Cérémonies de chant aux esprits.
Absolument.
Alors, donc, dans ces villages, aucun homme n'est accepté, aucun homme ne réside dans le village.
Non, alors les garçons, oui, jusqu'à l'âge de 16 ans environ. Et ensuite, ils doivent partir, quitter le village. Alors, ils peuvent venir en visite, mais ne peuvent pas y séjourner. Et sinon, effectivement, le village, il est réservé qu'aux femmes. Et elles ont un système très démocratique où elles votent tout, une sorte d'assemblée.
À main levée.
À main levée, exactement. Et toutes les décisions du village. Et tout ce qu'elles vendent, elles survivent, c'est très difficile. J'ai créé d'ailleurs une petite association pour les aider. Dunyatu. Et donc, lorsqu'il y a des touristes, parce qu'il y a quand même des safaris autour, etc., qui passent, ben elles vendent leurs bijoux qu'elles confectionnent, des petites, de toutes sortes de gris-gris. Et ensuite, chacune garde 10% et le reste, les 90%, sont mis dans une caisse communale où, voilà, c'est pour des médicaments, pour acheter une vache, des choses comme ça.
Alors, donc, ces femmes ont des enfants, mais où rencontrent-elles les pères ? Puisque les hommes ne viennent pas dans le village.
Alors, elles ont le droit, si elles veulent avoir des relations amoureuses avec des hommes, elles ont tout à fait le droit, donc ce n'est pas du tout interdit, sauf qu'il faut, que ça se passe en dehors du village. Les hommes n'ont pas le droit de rentrer.
Mais ensuite, est-ce que les enfants...
Ces femmes ont quitté leur mari.
Oui. Mais ensuite, elles peuvent continuer à avoir des enfants. Est-ce que la communauté s'agrandit?
Oui, bien sûr. Ah non, bien sûr, elles peuvent continuer à avoir des enfants, mais l'homme ne peut pas venir vivre là-bas.
Et les enfants savent qui est leur père ou pas?
Oui. Enfin, ça dépend. Après, ça c'est pas un problème. C'est pas comme chez les Mosso en Chine où c'est une autre histoire. J'y reviendrai. Le père n'est pas toujours connu pour d'autres raisons.
Ok. Donc, elles élèvent seules leurs enfants. Oui. Est-ce qu'elles donnent la même éducation à leurs filles et à leurs garçons?
Oui.
Et alors, dans ce cas-là, si elles élèvent leur fils loin du système patriarcal, oui. Si elles leur apprennent le respect des femmes, l'égalité des sexes, etc., pourquoi est-ce qu'elles trouvent normal que les adolescents quittent le village donc à la puberté ?
C'est une question que je n'ai pas... Vous me posez cette question, je ne saurais vous répondre parce que je n'ai pas posé cette question. Moi, je vois par exemple Chili, la chef du village, qui malheureusement est décédée une semaine après l'apparition de mon livre. Elle a son fils qui a une vingtaine d'années, un peu plus même, avec qui je suis toujours en lien. Et donc lui, je vois comment lui a été éduqué. Pour lui, c'était normal d'avoir quitté le village et il se pose pas la question. Non.
Bon, alors c'est nous qui nous posons trop de questions, peut-être.
Ça, je pense, oui. Parfois, oui.
Comment ces villages de femmes, donc exclusivement de femmes, Samburu et Turkana, sont-ils perçus par le reste de la population kényane?
Pas d'un bon œil, hein, parce que être femme au Kenya, c'est déjà pas très, très recommandé, on va dire. Et donc la femme Samburu, Turkana, chez les Maasai aussi, je crois, la femme n'a aucun droit, elle est propriétaire de rien du tout, c'est elle qui travaille le plus et elle n'a aucun droit. Donc on imagine bien que ces femmes dans ce village représentent une certaine menace pour les hommes autour.
Alors la plus étonnante peut-être de ces sociétés matrilinéaires que vous avez photographiées, ce sont les Mosso en Chine. D'abord, est-ce que vous pouvez nous planter le décor, Nadia ?
Alors, on va partir pour la description. Alors moi, je sens les choses. J'ai toujours du mal à mettre des mots sur.
C'est
magnifique. Il y a un lac, le lac Lugu. Vous imaginez des estampes chinoises, c'est difficile de décrire.
On est au contrefort de l'Himalaya.
Oui, voilà.
À combien de kilomètres de Pékin pour qu'on puisse.
Ouh là là, je sais même pas. J'ai pris l'avion. C'est très loin.
Très loin.
Mais c'est un grand pays. Hein.
Alors, cette société matrilinéaire, les Mosso, fascine les Chinois, écrivez-vous, parce qu'on y pratique l'amour libre. Racontez-nous.
Alors, déjà je ne suis pas sûre, je ne sais pas si c'est forcément la plus étonnante. Je pense qu'elles le sont toutes différemment, mais c'est une des plus anciennes, en tout cas répertoriées. Après, s'il y en a d'autres, je ne sais pas. Mais oui, ça fascine les Chinois, parce qu'en fait, il y a le Azu, c'est l'amant.
Le visiteur nocturne.
Exactement, qui vient donc la nuit rencontrer son amante.
Et c'est la femme qui l'a choisi.
C'est la femme qui l'a choisi. Lors de danse, par exemple, il y a la fameuse danse du feu. Il n'y a pas que cette danse-là, mais dès qu'il y a une cérémonie, effectivement, c'est là où ils se rencontrent. L'homme, le Azu, vient en visite. Parce qu'elle a accepté, il passe la nuit chez elle, le lendemain il doit partir. Et comme expliquait Sophie Blanchy tout à l'heure, effectivement là c'est matrie locale, c'est-à-dire que l'homme s'installe chez la femme et il y reste, alors ou elle l'admet dans son foyer, donc il peut y vivre quelque temps, ou alors il repart à chaque fois.
Donc ça peut être une nuit, une semaine, un mois, voilà. Ou toute la vie.
Voilà, exactement. Et si quand il repart ou chez sa mère ou chez sa sœur, en tout cas il n'est jamais vraiment chez lui, dans une société, dans une communauté matrilocale.
Mais à partir du moment où le mariage n'existe pas, donc ça veut dire que la notion de fidélité dans le couple n'existe pas, que les Mosso ne connaissent pas la jalousie, par exemple.
Non, ils connaissent pas la jalousie, effectivement, ni le mot père non plus. Et le mariage n'existe toujours pas, mais ça commence à changer. Ça fait partie des menaces, si on peut dire comme ça, de cette communauté, parce que bien sûr avec les réseaux sociaux, la mondialisation, les jeunes qui veulent partir, qui veulent migrer dans les grandes villes, etc. Et puis ils voient aussi d'autres modèles, notamment en Occident, enfin pas qu'en Occident d'ailleurs, parce que le mariage qui chez eux ne fait pas partie de leur coutume, les jeunes aujourd'hui de plus en plus veulent se marier pour faire.
Qu'on observe de plus en plus de couples monogames.
Oui.
Et
c'est pas la majorité encore, hein, mais il y en a de plus en plus, ouais.
Et on parlait tout à l'heure du fait que le père n'est pas reconnu et ignore l'existence de ses enfants. C'est toujours le cas aujourd'hui ou ça
non,
aussi, ça commence
non,
à changer ?
Ça commence à changer. Alors avant, effectivement, oui, l'enfant ne connaissait jamais l'identité de son père. Maintenant, de plus en plus, oui. Et aussi, dans ces sociétés matrilocales, l'oncle est souvent l'oncle maternel et le tuteur de ses neveux et nièces. Donc il y a quand même une responsabilité vis-à-vis de l'éducation et des choses comme ça, mais jamais par rapport à vis-à-vis de ses propres enfants.
Alors, comment sont réparties les tâches entre hommes et femmes chez les Mosso?
Alors, il y a la Dabou, qui est la chef, la matriarche du clan, qui elle, c'est elle qui décide au fait, qui décide des tâches à faire dans, par rapport à l'agriculture, sur les terres, qui distribue l'argent, qui gère la bourse, donc aussi qui prend les décisions, mais uniquement de son clan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une dabou pour toute la communauté. C'est chaque clan a sa propre dabou. Quand je dis clan, c'est famille, a sa propre dabou qui elle prend les décisions.
Les Mossos comptent combien de...
30 000 environ, 30 000. Ils sont, oui.
Et il n'y a personne au-dessus des clans ? Il n'y a pas une grande chef ?
Non, il n'y a pas de grande chef, non. Et d'ailleurs, par exemple, le maire de la ville où j'étais là-bas, c'est un homme. Donc il n'y a pas de...
Ah, il n'y a pas de... Ça veut dire que les hommes ne sont pas exclus du pouvoir politique,
entre guillemets. Non, ils ne sont pas exclus.
Et alors, comment le pouvoir central à Pékin, les autorités communistes, perçoivent-ils ce mode de vie ?
Aujourd'hui, bizarrement, j'ai pas vu vraiment des choses là-dessus, en dehors du fait que pour eux, ils voient ça plus comme une attraction touristique, parce que les jeunes chinois viennent là-bas pour célébrer leur lune de miel ou se faire photographier dans les pays, au royaume des femmes, là où on ne se marie pas. Et par contre, sous la révolution culturelle en 66 en Chine, là, le mariage a été imposé. Donc les Mossos, à ce moment-là, se mariaient, mais pour eux, ça n'avait bien sûr aucune signification. Et, mais depuis, ils peuvent de nouveau ne plus se marier.
Oui, la parenthèse s'est refermée. Oui. Et est-ce que c'est par l'école que Pékin essaye de faire bouger les choses en envoyant des enseignants
qui leur enseignent en mandarin et qui leur apprennent, par exemple, des mots comme père ou jalousie qui, pour eux, n'ont, encore une fois, qui n'ont pas de sens.
Et qui leur expliquent que leurs coutumes sont archaïques, dépassées.
De toute manière, c'est le problème de la Chine en général, hein, parce que c'est un pays qui, avec toutes ces différentes ethnies, ils veulent les uniformiser complètement et... Donc les Mossos font. Donc c'est vraiment d'autant plus étonnant qu'ils aient résisté depuis tout ce temps-là. Ouais.
Depuis des siècles. Ouais. Hein. Donc résister au modèle patriarcal, à la religion.
Au modèle patriarcal mondial, chinois, le régime politique là-bas, l'invasion de plus en plus de touristes, le tourisme, les réseaux sociaux. La connexion avec le monde extérieur. Enfin, moi, les vieilles dames que j'ai rencontrées, par exemple, là-bas, ne comprenaient pas que là-bas, d'ailleurs, ne comprenaient pas mon intérêt de pourquoi je m'intéressais à leur communauté. Pour elles, c'est partout, on fonctionne comme ça un peu partout dans le monde, enfin, que c'est partout pareil.
Donc, Sophie Blanchy, est-ce que la plupart de ces sociétés où les femmes jouent un rôle clé sont condamnées à disparaître à cause, comme le disait Nadia à l'instant, du tourisme de masse, d'Internet, de la globalisation du monde, etc.
Alors, l'exemple des Comores que je connais bien montre le contraire, mais une petite parenthèse d'abord sur les sangourous, dont il a été dit que les femmes n'y ont aucun droit et qu'elles sont presque une menace pour les hommes qui sont autour. Je signale les travaux tout à fait récents de Giordano Marmone, qui, par exemple, a écrit un article pour montrer comment les femmes fabriquent la masculinité chez les sangourous et comment elles participent à la production sociale des hommes à travers les classes d'âge masculines. En tant que mères, elles ont aussi un rôle qui est reconnu et je crois qu'il faut aller au-delà d'un regard superficiel et notamment se tourner vers les travaux très approfondis par des séjours de très longue durée qui sont faits par les anthropologues.
On va revenir aux Comores, si vous voulez bien. C'est une société à la fois matrilinéaire et matrilocale, une combinaison de traditions africaines bantoues et de religions musulmanes.
Absolument. Et en plus d'avoir cette matrilinéarité et cette résidence matrilocale, elles ont une autre institution d'origine bantou, c'est les classes d'âge masculines. Alors ça complexifie encore beaucoup les choses. Et bien entendu, en plus, elles sont musulmanes. Donc il y a des différents modèles de relations entre hommes et femmes. Alors, ce qui est très complexe et que je pourrais résumer très rapidement, c'est comment les groupes, les maisons matrilinéaires, puisque c'est pensé en maisons matrilinéaires, dans lesquelles les femmes sont au centre avec leurs frères de l'organisation, sont en relation avec ces classes d'âge masculines où s'exerce le pouvoir politique dans la communauté. Et c'est grâce au fait qu'elles ont des frères dans l'assemblée masculine que les femmes ont une influence, si vous voulez, ont indirectement un pouvoir d'action dans l'ère du politique. Et le mariage est très important chez eux, chez les Comoriens de Gazidja, donc, parce que c'est le moment où ces maisons matrilinéaires vont s'allier entre elles et vont faire des échanges de biens très importants, des échanges cérémoniels très importants. Et là, on voit très bien comment le mari de la fille aînée, qui va être mariée en grand mariage, va jouer le rôle d'intermédiaire, de prédateur, entre la maison de sa femme et la maison dans laquelle on va emmener le frère de sa femme pour qu'il se marie à son tour. Si vous voulez, les gens agissent en maison et pensent en maison matrilinéaire. Et ils sont représentants de leur maison dans différentes instances. Alors ça, ça concerne les groupes de parenté, les groupes de filiation matrilinéaire. Et puis, une fois que les gens sont mariés, il y a le couple conjugal.
Sophie Blanchy, on vous entend beaucoup moins bien que tout à l'heure. On va essayer peut-être de voir ce qui se passe avec la communication téléphonique. Nadia Ferrucchi, vous partagez l'enthousiasme de la journaliste et écrivaine Laure Adler dans la préface de votre livre. Elle écrit « D'autres sociétés matriarcales sont à découvrir à travers le monde, porteuses de modèles, de manières de vivre, de douceur et de tolérance ». Est-ce que vous êtes rentrée de reportage, vous aussi, en vous disant il y a des sociétés qui peuvent fonctionner différemment de la nôtre, et ça marche, ça fonctionne, il y a moins d'animosité entre les hommes et les femmes, il n'y a pas ces luttes pour le pouvoir, etc.
Oui, de toutes les manières, je pense que... J'avoue que je suis...
Parce que pour Laure Adler, par exemple, savoir que ces sociétés de femmes existent et les découvrir grâce à votre travail est une forme d'espoir. Donc, ce travail, est-ce que vous êtes rendu compte que c'était peut-être aussi un travail, pas seulement de témoin, mais militant quelque part ?
Encore une fois, je suis reporter. Moi, je raconte des histoires. Je suis pas scientifique. Là, je vous avoue que je suis un petit peu
déçue.
Oui, un petit peu. Oui. C'est très bien qu'il y ait des recherches récentes sur les samburus. Moi, je ne suis pas anthropologue. Je ne passe pas mon temps à lire des choses sur. Je vais continuer ce travail. Là, je suis déstabilisée. Je suis désolée.
On va enchaîner avec ce reportage dont je vous parlais tout à l'heure, Nadia Ferrucchi. Un reportage sur une cantine qui est née dans un squat en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, la cantine des femmes battantes a 2 ans. C'est un traiteur social qui vise l'émancipation des femmes exilées et précaires par la cuisine, une cuisine ouest-africaine. L'idée portée par 2 des cofondateurs, Tariq et Luca, c'est d'encourager les femmes à démarrer une activité professionnelle, autogérée, et les accompagner dans leur démarche administrative. En attendant, elles sont au fourneau car elles doivent préparer un repas pour 300 personnes. Nous sommes un samedi matin et notre reporter Charlie Dupio nous emmène dans la cuisine du théâtre Nout sur l'île Saint-Denis. Les cuisinières confectionnent des beignets au thon et Mariam se concentre.
Bon, je suis en train de faire les pastels et c'est pas trop ma spécialité ça, mais j'aide les filles quand même.
D'abord, vous étalez la pâte.
Oui, vous étalez la pâte comme ça.
Il faut de la force.
Voilà. C'est pourquoi tu vois, toutes les femmes, elles sont costauds.
Il faut avoir la force.
Il est beau celui-là que vous avez fait.
Ouais, c'est ce qui. Ça m'étonne aujourd'hui, je suis à la hauteur. Ouais. Une première fois, j'arrive à le faire.
Et vous avez commencé à quelle heure ce matin?
On a commencé à 7h du matin. 7h jusqu'à 17h. L'événement, en fait, nos 2 ans de carrière.
En tant que femme battante.
En tant que femme battante, pour montrer que non. On a commencé, on a promis qu'on va aller jusqu'au bout.
Il faut dire la personne n'a pas venu.
Bon, nous, on cuisine beaucoup pour l'événement.
Des événements d'entreprise, d'association.
Voilà, les événements, les entreprises qui demandent à vraiment. On a besoin de vos services.
Et c'est des plats donc sénégalais, ivoiriens.
C'est des plats, uniquement plats africains. Parce que quand on a commencé, on a dit Afrique. Donc, quand les gens nous disent, ah, vous ne faites pas tant, on dit non. On a dit plats africains. Et si tu veux voyager pour aller en Afrique, tu n'as pas besoin de prendre vol. Tu peux venir chez les femmes battantes, tu l'auras tout. Direct. Vous pouvez même voir ma grand-mère dans la nourriture.
Et alors, justement, qui vous a appris à cuisiner, vous?
Bon, en fait, nous, à partir de toute petite, et déjà, on apprend à cuisiner quoi, auprès de les mamans, Quand la mère elle cuisine, elle dit, hey, viens là, un jour tu vas te marier, tu ne vas pas aller dire que non. Ah ouais, ma maman ne m'a pas appris à cuisiner. Non, 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 parce que chez nous, quand tu te maries, tu ne sais pas cuisiner, c'est la mère, on insulte.
C'est la divorce directement.
C'est la maman, on insulte, on dit, ah ouais, tu n'as pas éduqué ta fille, elle ne sait même pas faire la cuisine. Donc, tu sais, à partir de bas âge, nous, on apprend déjà à cuisiner.
Je suis Touré Fatou, je viens du Sénégal. Je suis la présidente de l'association de femmes battantes. La chef de cuisine en même temps. Aujourd'hui, on fait le couscous sénégalais. C'est accompagné avec le sauce. On fait le oignon, poivron, tomate.
Donc c'est végétarien alors?
Oui, c'est végétarien. Mais ça dépend des commandes. Les filles sont là, elles sont en train de travailler. Massami, Ndeye. Ndeye aussi, c'est sénégalais, mais là, il va rien. Djiné, non? Djiné? Il va rien. Massami aussi, il va rien. Et Agostine, Cameroun.
Vous êtes 8 là en cuisine.
Ah ouais, on est 8.
Qu'est-ce que vous chantez là?
Il y a un jeune artiste malien là.
Et vous chantez souvent en cuisinant?
Ah bah oui, parce que souvent à la langue on malinqué et beaucoup de fois on chante là-dedans en fait.
Je m'appelle Dossou Mariam, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis venue en France, ça fait précisément 2 ans. J'ai eu l'asile ici et ça fait 1 an et quelques que j'ai mes papiers. Je suis partie plusieurs causes. Je suis partie par violence conjugale. Et mon mari me battait devant mes enfants et puis mes belles-parents aussi. Et ils m'ont fait la misère. Je suis quittée chez moi. Ça pouvait me faire oublier. Et avant que j'ai mes papiers, on était dans un endroit au squat où tout a commencé, où l'association a été mise en place. On a commencé l'association, on était 4.
Donc vous avez monté l'association de la cantine des femmes battantes?
Oui, on a monté l'association de cantine des femmes battantes en 2019. Et je leur ai dit, on n'a qu'à essayer de se battre en tant que femme. Et c'est là qu'ils ont dit, et si on se mettait à faire la cuisine? Et nous, comme ça, la cantine femmes battantes, on veut avoir notre place dans la société française. Par la cuisine africaine. Et on va l'avoir aussi. Et on va faire notre place.
Et ces femmes battantes sont encore très peu rémunérées ou de manière symbolique. Avec l'argent récolté des prestations, elles ont mis en place une caisse de solidarité qu'elles s'autorisent à utiliser quand certaines ont un besoin urgent. Elles économisent aussi les recettes de leur travail dans l'espoir de trouver un local à Saint-Denis ou ailleurs pour avoir leur propre restaurant. Nadia Ferrouki, vous avez dédié votre magnifique album Les Matriarches à cette grande dame de l'anthropologie qui était Françoise Héritier. Qu'est-ce qu'elle vous a appris?
Avant de la rencontrer, j'étais un peu terrifiée par l'idée de lui raconter un petit peu toutes mes histoires. Donc je suis allée la voir. Elle a été juste absolument délicieuse, quoi. En toute cette grandeur et toute cette modestie m'a tout de suite mis à l'aise. C'est elle m'a apporté énormément de choses. Elle m'a déjà éclairée sur ce terme matriarcat, effectivement, qui est un terme qui tout le monde aime bien y mettre un petit peu ce qu'il veut,
parce mais qui est parlant pour le grand public.
Qui est parlant pour le grand public, effectivement, mais c'est important de d'expliquer vraiment quelle est la signification derrière. Donc elle m'a éclairée là-dessus, et moi en échange, je ne l'ai rien appris. Absolument pas, bien évidemment. En revanche, je pense que ce qu'elle appréciait chez moi, et c'est pour ça que je l'ai vue quand même plusieurs fois, j'étais souvent chez elle, c'est que je lui racontais des histoires sur du terrain. Et ça lui manquait parce qu'elle pouvait plus, elle était âgée et malade, donc elle pouvait plus aller sur le terrain. Donc je pense que je la faisais peut-être un petit peu rêver. Et puis je lui fais aussi le village du Kenya, par exemple, elle le connaissait pas. Donc voilà, il y a eu un vrai échange. Et je regrette vraiment qu'elle soit partie trop tôt avant que
le livre sorte.
Avant, oui. Bah oui, elle devait même écrire la préface. Alors Laura Adler l'a fait depuis, et elle a écrit une sublime préface. Et d'ailleurs, ce trio est intéressant parce que nous sommes donc trois femmes de trois générations différentes qui travaillons sur les femmes. Et elle connaissait très bien Françoise Héritier aussi, donc c'était un bon choix de l'éditeur.
Merci beaucoup Nadia Ferrucchi d'avoir été notre invitée. Je renvoie nos auditrices et nos auditeurs à votre livre Les Matriarches, publié chez Albin Michel, et vos photos sont absolument superbes. On va se quitter en musique avec Dadju et Anita, Mon Soleil.
Let's go mon soleil, s'amuser jour et nuit sans parler de sommeil. Let's go mon soleil, on va goûter la vie en entrée plat dessert. Let's go mon soleil, si c'est pas toi c'est qui, tu connais mon proverbe. Let's go mon soleil, abîmer ton brushing avec le toit ouvert. Trop petit, les hommes superficiels pour toi c'est trop petit. C'est pas l'argent qui va combler ton appétit. T'as fini de donner l'heure à n'importe qui, n'importe qui. Au débit, la connexion c'est forcément du haut débit. Tu gères les bails, tu veux le respect d'une boss lady. J'ai comment pimenter le reste de ta vie. Oui, t'es rentré, tu veux plus sortir de ma tête. Je suis bien partout avec toi pour être honnête. C'est autour de toi que tourne ma planète. Let's go mon soleil, s'amuser jour et nuit sans parler de sommeil. Let's go mon soleil, on va goûter la vie en entre plein dessert. Let's go mon soleil, si c'est pas toi c'est qui, tu connais mon proverbe. Let's go mon soleil, abîmer ton brushing avec le toit ouvert.
Y tú tenías razón, ya tenés mi atención. Perdí tiempo y nunca llené corazón. Sé bien lo que yo me merezco. Yo contigo sin miedo yo me arriesgo. Porque así la vida es así. Bendición es tenerte aquí. Vamos a seguir el momento. Dejo libre todo lo que siento yo. Como una estrella en el mar, me haces brillar. Y como la luna
soleil, s'amuser jour et nuit sans parler de sommeil. Let's go mon soleil, on va goûter la vie en entre plat dessert. Let's go mon soleil, si c'est pas tout, c'est
7 milliards de voisins, c'est fini.